Bonjour, bienvenue dans Super Burnette. Je suis Marlène. J'ai imaginé et créé ce podcast pour partager avec vous mes rencontres avec des personnes inspirantes. Parmi elles, j'ai rencontré Anne-Sophie qui a fondé l'association Elle Burn que nous appelons les Burnettes. L'association sensibilise les publics à la question du burn-out. Après des mois de fatigue, culpabilité, désespoir, il y a l'après-burnout. Cette année, j'ai à cœur d'interviewer des femmes qui témoignent des violences sexuelles et sexistes qu'elles ont subies au travail et qui les ont précipitées vers le burn-out. Beaucoup de personnes témoignent de telles violences. Aujourd'hui, on veut en parler, comprendre et surtout sensibiliser face à ce sujet grave et préoccupant. Dans ce nouvel épisode en mode experte, c'est Ségolène Alain que je suis allée rencontrer au siège du CIDFF pour qu'elle nous parle des VSST, de la responsabilité des employeurs, du rôle du témoin, des moyens de prévention et des actions à mettre en place lorsqu'on subit de telles violences. Bonjour Ségolène.
Bonjour.
Bienvenue, merci de participer à cet épisode un peu spécial du podcast de Super Burnette.
Avec plaisir.
Il s'agit d'un épisode sur les violences sexuelles et sexistes et avec toi, en tant que juriste du CIDFF de la Gironde, d'aborder ensemble la question juridique en fait, dans tous ses aspects et puis... Pour accompagner les victimes et puis les témoins en fait de telles violences.
Tout à fait, c'est vrai que au centre d'information sur les droits des femmes et des familles, on reçoit toute personne victime de violences sexistes et sexuelles, donc principalement les femmes, quel que soit l'endroit des violences. Et c'est vrai qu'au niveau du travail, on a de plus en plus la libération de la parole et donc de plus en plus de femmes qui viennent nous voir pour se renseigner sur les droits et les démarches qu'elles peuvent mettre en place.
D'accord, ok. Un peu comme nous aussi, les bénéficiaires qu'on accompagne à l'association Elle Burn et qui, du coup, au-delà du burn-out, en fait, beaucoup témoignent d'avoir vécu ces violences au sein du travail, en fait.
C'est vrai que c'est pas anodin quand on regarde les chiffres, on peut se dire qu'il y a à peu près une femme sur trois qui a déjà été victime d'agression ou de tentative d'agression et de harcèlement sexuel au travail.
Ok.
Soit par un collègue, par un employeur, ça peut être vraiment très divers.
D'accord. D'abord, je me demandais si on pouvait rappeler ensemble les grandes lignes de ce qu'étaient les violences sexuelles et sexistes du point de vue juridique.
Alors, ce qu'on va appeler les violences sexuelles et sexistes, en termes de droit, c'est pas une définition. En fait, ça va regrouper les différentes infractions, donc les différents actes et comportements qui sont sanctionnés par la loi. Donc, dans les violences sexistes et sexuelles, ce qui est intéressant aussi dans ce terme-là, même d'un point de vue juridique, mais aussi sociétal, c'est que ça va bien montrer que c'est des violences qui touchent principalement les femmes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a cette nécessité aussi d'avoir créé le terme de sexisme, en fait, de circonstances aggravantes. C'est-à-dire qu'on va avoir des peines plus importantes quand il y aura cette qualification qui sera retenue pour des actes qui, par exemple, des violences entre guillemets classiques, vont être condamnées différemment que des violences sexistes. Donc c'est vrai que c'est prendre en compte la réalité aussi du quotidien et des femmes par la loi.
D'accord, intéressant. Est-ce qu'il y a des définitions à donner en particulier ?
On pourrait, dans les violences sexistes et sexuelles, on peut retrouver les différentes infractions telles que, par exemple, l'outrage sexiste. Au niveau, par exemple, du travail, on va plus appeler ça l'agissement sexiste. C'est le même terme, mais... Enfin, pardon, c'est deux termes différents pour une même fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les violences sexistes et sexuelles au travail, d'un point de vue juridique, c'est que les personnes peuvent être protégées sur deux niveaux. Au niveau, par exemple, on reviendra peut-être un peu plus dessus tout à l'heure, mais au niveau pénal, donc avec dépôt de plainte, et ensuite au niveau du travail, avec éventuellement sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l'encontre des auteurs. Mais voilà, on va avoir les agissements sexistes, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel et le viol principalement qu'on va regrouper sous ce terme-là pour le travail.
Des VSST. Ok. Concrètement, en fait, là, on rentre dans le vif du sujet. si je vis l'un de ces, ces types de violences, si je vis l'une de ces violences dans le cadre de mon travail, que dois-je faire? Comment dois-je réagir, en fait?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Ce qui va être important aussi, c'est de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être personnes ressources intéressantes. Et notamment, alors, il y a plusieurs possibilités. D'un côté, on va avoir le droit pénal avec la possibilité d'aller déposer plainte en gendarmerie, commissariat, indépendamment l'un ou l'autre. En fait, il n'y a pas d'obligation d'aller, par exemple, dans le commissariat de notre ville. On peut aller déposer plainte où on veut. Et ça, je trouve que c'est important de le signaler parce que souvent, on peut avoir des refus de plainte en disant « Non, votre travail est à tel endroit, donc vous devez aller déposer plainte à tel endroit. » Ça, c'est faux. La personne peut aller déposer plainte là où elle souhaite. Et ensuite, donc, va y avoir dépôt de plainte, enquête, la procédure donc, pénale, on va dire, classique. Et de l'autre côté, va y avoir la procédure donc, soit devant le conseil des prud'hommes pour les salariés de droit privé, soit devant le tribunal administratif pour les salariés de droit public. Par contre, ce qui est important de souligner avant toute chose, c'est si les faits ne sont pas de la responsabilité de l'employeur, celui-ci a l'obligation en fait, d'avoir un rôle de protecteur vis-à-vis de l'ensemble des salariés, que ce soit par rapport à la santé mentale ou physique. Donc, mental, c'est très important parce que le harcèlement sexuel, il n'y a pas de contact physique. On va revenir sur ces définitions juste après. Mais voilà, l'employeur a l'obligation, une fois qu'il a connaissance de faits de violences sexistes ou sexuelles, d'agir dans les 2 mois, de faire une enquête pour justement permettre à la personne qui serait victime d'être protégée et d'éventuellement prendre des sanctions disciplinaires vis-à-vis des auteurs ou de l'auteur.
D'accord. Donc du coup, la victime peut s'adresser ou doit s'adresser au prud'homme ou au tribunal administratif et auprès du commissariat.
C'est ça.
Ce sont 2 démarches, en fait, à effectuer lorsqu'on vit une violence au travail, en fait.
Ça peut être, en effet, ces 2 démarches qui peuvent être effectuées en parallèle. D'un côté, le droit pénal, on va dire que c'est pour protéger la personne au niveau de la société, alors que le droit du travail, au sens fonctionnaire et aussi droit privé, sont là pour protéger la personne au sein de son entreprise. Donc, en effet, quand on est victime de violences sexistes et sexuelles, on peut, dans un premier temps, soit aller déposer plainte parce qu'on n'a pas de personne confiance ou de personne ressource au sein de l'entreprise.
D'accord.
Soit on peut, en fait, ne pas vouloir partir sur le volet pénal, mais avoir des sanctions disciplinaires donc pour ne plus côtoyer l'auteur.
D'accord.
Donc, avoir une référence, par exemple, ça peut être un responsable hiérarchique, ça peut être l'employeur, ça peut être les ressources humaines, ça peut être le médecin du travail, il y a plusieurs personnes ressources. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les 2 juridictions, donc les 2 personnes, on va dire, morales qui vont faire les enquêtes, sont indépendantes.
D'accord.
Si au niveau pénal, on a une sanction, ça ne veut pas dire que l'employeur est obligé en fait, de sanctionner aussi. Inversement, si l'employeur reconnaît les faits, au niveau pénal, il n'y a pas forcément de reconnaissance. Donc, c'est aussi permettre une protection plus globale parce qu'au niveau pénal, il faut savoir que la preuve est libre, c'est-à-dire que chaque personne peut emmener, par exemple, un enregistrement d'un collègue qui l'a insulté, qui l'a harcelé pour aller déposer plainte. Par contre, cet enregistrement ne sera pas recevable pour une sanction disciplinaire.
D'accord. Donc, les démarches sont complètement distinctes, en fait, hein, et ne représentent pas les mêmes actions.
C'est ça, c'est pas les mêmes objectifs. Il y en a un, c'est vraiment pour être beaucoup, enfin, on va dire, pour avoir un cadre sécure au niveau du travail.
D'accord.
Et l'autre, ça va être plus pour avoir une reconnaissance au niveau de la société.
Ok, au sens plus large.
C'est
ça. Du coup, on pourrait regarder un peu plus en détail la responsabilité de l'employeur.
Oui. Donc l'employeur, en fait, au départ, il avait une obligation d'action une fois qu'il était informé de ces faits-là. Cependant, en fait, depuis un peu avant 2016, 2014, 2016, il a désormais en fait l'obligation de faire de la prévention. Et cette prévention, c'est quelque chose qui est intéressant aussi parce que c'est montré en fait à chacun et chacune des salariés que donc l'entreprise doit agir même en amont en fait du moindre fait pour bien cadrer les comportements et aussi, on va dire, débanaliser tout ce qui se faisait énormément à une époque, tels que les surnoms, ma jolie, ma belle, avec des comportements donc, qui rentreraient dans l'agissement sexiste. Mm-hmm. Donc l'agissement sexiste, on peut le définir juridiquement comme un fait à caractère sexiste ou sexuel qui est imposé à une personne qui soit porte atteinte à sa dignité, soit crée une situation intimidante, offensante, humiliante ou dégradante. Mmh. Donc c'est vrai que ça va être quelque chose, par exemple, j'aime bien citer l'exemple d'un collègue qui va bloquer le passage et dire « Oh là là, ton haut, il te fait une belle poitrine ». Mmh. Donc ça va être de l'outrage sexiste par exemple, ou « Ah, ce pantalon te fait un joli petit cul ». Ça, ce sont des outrages sexistes, l'agissement sexiste qui sont condamnés. On n'a aucun contact physique et ça, c'est malheureusement des choses, des réflexions, des blagues qu'on peut retrouver très régulièrement dans le milieu du travail et dans tous les secteurs. Il n'y a pas de milieux qui sont malheureusement plus protégés que d'autres. Et c'est vrai que ça, c'est... La prévention permet déjà, on va dire, un petit peu de sensibiliser sur ce premier accès, sur ce premier niveau, pardon, qui est très commun. D'accord. Et habituel.
Du coup, c'est sanctionnable, en fait.
C'est ça. C'est aujourd'hui, ça peut être voilà, sanctionné avec, au niveau disciplinaire, avec, par exemple, un premier blâme, un avertissement. Ça peut être, en effet, une sanction vraiment disciplinaire, pas seulement... De personne à personne. Donc ça peut être inscrit dans un dossier et si en effet il y a une répétition donc de l'outrage à ce moment-là à partir de faits on devient dans le harcèlement. Le harcèlement ça va être à partir de faits à connotation sexiste ou sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne ou de la même manière qui la met dans une situation inconfortable, intimidante, hostile ou offensante. Et le harcèlement sexuel peut être sanctionné par un licenciement.
Ok.
Et au niveau du droit pénal, on va être sur 1 500 € d'amende pour l'outrage sexiste et sur de la prison et aussi de l'amende pour le harcèlement sexuel.
Plus conséquente.
C'est ça.
Je suppose. Ok.
Pour le harcèlement sexuel aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'on va toujours se placer du point de vue de la personne. Donc, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs auteurs qui font une seule réflexion à connotation sexiste ou sexuelle, même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils ne se sont pas concertés, ils peuvent être sanctionnés pour du harcèlement sexuel parce que la personne a subi plusieurs réflexions. D'accord. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi de le souligner.
Oui, effectivement, ça, c'est quelque chose que j'apprends avec toi aujourd'hui. Ouais.
Comme la jurisprudence, donc les juges, pour vraiment protéger les personnes, ont élargi un maximum, en fait, le harcèlement sexuel avec ce qu'on va appeler le harcèlement sexuel d'environnement ou d'ambiance. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne directement qui va avoir les réflexions, mais ça va être des collègues qui systématiquement vont raconter leur rapport sexuel de la veille, vont faire des blagues à connotation vulgaire, vont afficher des calendriers d'hommes ou de femmes nues. Et tout ça, ça fait partie en fait du harcèlement sexuel. Parce que la personne en fait peut tout à fait être mal à l'aise, gênée, offensée, et même si c'est pas elle qui est directement concernée par les remarques.
Ok. Il y a d'autres violences qu'on n'aurait pas exprimées dans sa définition ou son explication ?
Alors, ces violences-là, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on les retrouve autant dans le code du travail que dans le code pénal.
D'accord.
Et le code du travail aussi, et la loi Le Port pour les fonctionnaires, a aussi mis en place des sanctions pour ce qu'on appelle le harcèlement sexuel assimilé. Donc ça, c'est une infraction qui va être... particulièrement intéressante parce que pour le harcèlement sexuel, l'agissement, on est vraiment sur, voilà, pour les collègues, pour le supérieur hiérarchique, alors que le harcèlement sexuel assimilé, on va être sur déjà, un seul fait suffit pour parler de harcèlement sexuel assimilé. Il faut qu'il y ait une pression ou un avantage, en fait, en échange d'un acte sexuel ou même les juges, on peut dire, si une personne demande, alors un exemple très...
Trash.
Voilà, ça sera plus
mais
plus
au moins
simple.
Ça parlera voilà, ça. Aux auditeurs.
Par exemple, un supérieur ou un manager qui va dire à une salariée, ah si à partir de demain tu viens en jupe courte avec des barésilles, je t'aurai tous tes congés aux dates que tu souhaites et je te ferai tes modulations d'horaire. Là, on est dans du harcèlement sexuel assimilé parce que ça renvoie un fantasme. Même si c'est pour lui ou pour d'autres collègues, ça va être sanctionné. En fait, dès qu'il y a un chantage, une pression, un avantage par rapport à un acte sexuel ou un fantasme pour la personne, même si c'est « passe chez moi ce soir et on verra s'il se passe des choses ou plus si affinité », même si c'est en sous-entendu, c'est sanctionnable.
D'accord.
C'est un petit peu, alors je n'aime pas ce terme, mais une époque, ce qu'on appelait les promotions canapé.
Oui, exactement.
Mmh. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que bah, ces femmes-là n'étaient pas consentantes pour recourir à des actes sexuels ou avoir voilà, des... en fait, donner aux hommes ce côté sexuel, fantasme qu'ils recherchaient, qu'elles étaient victimes. Donc ça a été sanctionné pour montrer aussi que non, ce n'est pas OK d'avoir ce genre de comportement avec ses salariés.
D'accord. Donc ça, c'est quand même une avancée au niveau de la justice, en fait. C'était pas du tout reconnu.
C'est ça.
Auparavant.
C'était aussi très minimisé, banalisé, avec... là, c'est vraiment le mouvement MeToo en 2017 avec la dénonciation des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du travail qui a permis en fait cette libération de la parole. Et donc, la loi aussi a pu en fait s'adapter aux D'accord. nouveaux faits qui étaient dénoncés, même si pour le coup, le harcèlement sexuel assimilé existait déjà, mais était très peu connu.
D'accord. Peu importe en fait qu'il y ait un lien de hiérarchie ou pas par rapport à au harcèlement sexuel assimilé.
Oui, tout à fait.
Okay.
C'est vrai que souvent c'est plus un supérieur hiérarchique parce qu'il faut cette pression, oui. ce chantage aussi. Mais ça pourrait être un collègue ou une collègue d'ailleurs qui fait ce harcèlement sexuel.
D'accord, parce que je pense à l'une des témoins du podcast, Anna, qui du coup avait subi de telles violences de la part d'un collègue en fait.
Après, s'il y avait voilà, plusieurs répétitions, on serait dans du harcèlement sexuel. La spécificité vraiment du harcèlement sexuel assimilé, c'est qu'un seul fait suffit.
Okay.
Et après, on va avoir ce qu'on... Dès qu'il y a un contact physique, donc l'agression sexuelle et le viol, à ce moment-là, par contre, ça, ce sont des faits qui sont, on va dire, tellement graves que le Code du travail ne les a même pas repris. Parce que normalement, dès qu'il y a ce type de faits, un employeur peut directement en fait, sanctionner la personne condamnée sans qu'il y ait forcément des articles spécifiques dans le Code du travail ou la loi le porte pour ça. Avec l'agression sexuelle, la différence avec le viol, c'est que l'agression sexuelle, c'est tout contact physique hors pénétration. Donc, c'est-à-dire dès qu'il y a une personne qui va toucher le corps avec une intention sexuelle, on peut être dans l'agression sexuelle. Pour quand même un petit peu encadrer ça, même si la loi ne le fait pas. Nous, on va dire qu'il y a 5 zones dites sacrées un petit peu sur le corps où personne ne doit toucher sans consentement et les gens ne doivent pas la toucher sans consentement. On va être sur la bouche, la poitrine, le sexe, les fesses et l'entrecuisse. Donc à ces moments-là, c'est des endroits du corps où on ne peut pas toucher les personnes par accident. C'est pas...
Oui, on est d'accord.
Voilà. Oups, je t'ai embrassé sans faire exprès. Non, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que voilà, ça va être tout contact physique, on est dans l'agression sexuelle. Souvent les personnes elles pensent que en fait ne font pas la différence entre agression sexuelle et harcèlement. Et c'est important en fait de savoir aussi ce qu'on a pu subir ou ce que les collègues ont pu subir pour le nommer et aussi bien expliquer que ben non, ça c'est la loi qui dit que ben une main aux fesses c'est une agression sexuelle, ce n'est pas ton ressenti ou ta sensibilité, ce n'est pas mon ressenti ou ma sensibilité qui fait que je suis mal à l'aise, que je ne suis pas en accord avec ce qui vient de se passer. C'est la loi, c'est objectif. C'est pas, voilà, chacun et chacune on vit différemment les actes de violence sexiste et sexuelle, mais le fait de savoir nommer, ça permet de dire à la personne, là tu es mal, tu as eu une main aux fesses, c'est normal, c'est interdit par la loi, c'est une violence sexuelle.
Les entreprises sont formées en fait, les services RH, les comités de direction, comment ces employeurs sont informés de leurs droits et devoirs par rapport aux collaborateurs sur ces questions-là?
Alors normalement, c'est ce que la loi a essayé de mettre en place avec cette obligation de prévention. Cependant, on constate en effet énormément que depuis 8 ans que cette loi a été mise en place, il y a encore très peu d'entreprises qui font des formations de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On va avoir beaucoup d'employeurs qui sont beaucoup plus sensibilisés sur l'agir après, ne pas laisser une salariée dans cette situation-là, même si concrètement on regarde des chiffres aujourd'hui, on voit qu'il y a 95% des femmes qui vivent des violences sexistes et sexuelles au travail qui sont licenciées ou qui démissionnent. Donc on a vraiment encore cette double sanction de c'est la personne victime qui change de service, change d'emploi pour se protéger et pas l'auteur qui va être sanctionné.
C'est terrible.
Oui, c'est malheureux.
Soit dans ce sens-là et pas dans le sens inverse.
Oui, c'est quelque chose encore par rapport aux violences sexistes et sexuelles où on constate cette peur, entre guillemets, de sanctionner les auteurs quand les faits ne sont pas prouvés, avérés, 100% certifiés. Et voilà, c'est vrai qu'il y a encore malheureusement dans les entreprises aussi cette banalisation et minimisation des violences sexistes et sexuelles.
Ok.
Et pour le viol aussi, ça va être tout acte de pénétration et tout acte bucogénital, c'est-à-dire que fellation, cunnilingus et anulingus subis sont des viols. Donc à ce moment-là, c'est une plainte et c'est voilà, ce qu'on appelle un crime. Alors que par exemple l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel sont des délits. Et pour le crime, c'est voilà, dépôt de plainte. Et au terme des chiffres, on constate que c'est à peu près 5% des viols qui ont lieu dans la sphère professionnelle.
D'accord. Ok. Merci.
Et ce qui est aussi, parfois, en fait, nous, ce qu'on va avoir aussi beaucoup comme question, ça va être des collègues qui vont venir en disant, en tant que témoin, qu'est-ce qu'on peut faire?
Justement, voilà, c'était la partie suivante.
Je fais trop vite.
Non, mais justement, effectivement, le rôle des témoins, il est essentiel, primordial, et aussi, encore faut-il connaître son rôle lorsqu'on est témoin, collègue d'une personne qui... nous remonte ces faits-là ou qu'on a pu observer dans le couloir, dans les bureaux ou je ne sais où qu'il a pu se passer quelque chose de grave en fait. Parce que voilà, peu importe la violence dans sa catégorisation et sa puissance, ça reste très grave.
Oui, et c'est vrai que souvent les personnes ne savent pas comment agir. Et c'est important de faire la distinction, en fait, on va dire, entre ce qu'on va appeler témoins directs et les témoins indirects.
Okay.
Les témoins indirects, ça va être les personnes qui reçoivent les témoignages des victimes, qui disent, il y a X qui fait ça, je suis mal à l'aise, j'ai mon employeur qui tient tel et tel propos, le fait de recueillir cette parole-là. C'est le fait d'être... Enfin, on devient témoin direct. Et souvent, ces personnes minimisent un peu le rôle qu'elles peuvent avoir dans les procédures parce que le fait de parler à quelqu'un de ce qu'on a subi, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pas anodin, même si aujourd'hui, on a un peu tendance à entendre ces idées reçues de... si elle parle, ça peut être pour X ou Y raison. Non, une victime qui parle, c'est une victime qui a confiance en la personne à qui elle se confie. C'est pas quelque chose qui est simple. Et ça, c'est aussi important de le signaler parce que ça commence de plus en plus à être reconnu par la loi qu'on ne dénonce pas des faits pour se venger ou pour porter tort à la personne. Ça, c'est vraiment des idées reçues qu'il faut bannir absolument.
Oui.
Parce que c'est vrai que ça ne reflète pas du tout une réalité, même au niveau des chiffres, au niveau des témoignages des victimes. Enfin, voilà, j'insiste beaucoup parce qu'on a souvent ça comme retour. Donc, en tant que témoin indirect, le fait de faire des témoignages, donc c'est-à-dire de dire telle personne m'a confié que X avait tenu tel ou tel propos, qu'elle a subi tel fait de la part de telle ou telle personne. Et aussi, ce qui va être très important, c'est de constater un petit peu ce qu'on appelle les effets psychosociaux chez les victimes. Par exemple, si vous constatez qu'une de vos collègues arrive en retard alors qu'au départ, ce n'était pas le cas, qu'elle a des maux de ventre, qu'il y a de la fatigue, qu'il y a une perte de motivation ou alors une difficulté à réaliser des tâches qui, au départ, n'étaient pas du tout... insurmontable pour elle, tout ça, ce sont des éléments en fait qui peuvent être mis dans les témoignages des témoins directs en disant c'est vrai que depuis 3 semaines, je constate que W a du mal à dormir, qu'elle est de plus en plus stressée, qu'en effet, tous les mercredis après-midi, quand on a la visite de V, elle est en arrêt maladie. Enfin, tout ça, ça peut être en fait des éléments indirects, un faisceau d'indices qui montre la véracité des faits. D'accord. Donc, il ne faut pas minimiser l'impact que la parole des témoins directs peut avoir pour les procédures et pour faire reconnaître aussi la vérité.
D'accord, la parole et l'état aussi, ou ce que la personne peut montrer comme symptômes.
Exactement.
Et là, je vois qu'il y a un lien assez proche avec le burn-out et ce qu'on peut... là, ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais effectivement, c'est... comme tu disais, un faisceau d'indices qui oriente et donne un peu ce tampon sur le fait qu'il se passe des choses et que on peut, comment dire, que ces faits peuvent être relatés, quoi.
C'est ça, et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que la loi aujourd'hui, les juges aussi, les personnes qui vont mener les enquêtes prennent de plus en plus en considération ces effets psychosociaux. Ce qui, du coup, permet de déconstruire les idées reçues sur elle avait qu'à partir, si elle n'était pas bien dans l'entreprise, elle pouvait tenir tête à son employeur. Enfin, voilà, aujourd'hui, le fait de montrer que subir des violences sexistes et sexuelles au travail, il y a une perte de confiance en soi, il y a une perte d'estime de soi, il y a du stress, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, la personne, elle n'a pas toutes ses capacités pour pouvoir réagir parfois sur le moment même ou même après. Après, il y a tous les effets aussi de sidération, etc., etc. Mais le fait que ça soit aussi reconnu désormais dans les enquêtes, c'est important pour démontrer en fait la réalité des violences sexistes et sexuelles et vraiment l'ampleur que ça a sur les personnes. Okay. Et donc, pour les témoins directs, nous, ce qu'on aime bien citer, c'est vrai que c'est... une chose qui est de plus en plus transmise, c'est avec la Fondation des femmes et L'Oréal, la méthode ce qu'on appelle des 5D. Donc avec le distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Donc on va souvent la citer parce qu'elles ont fait tout à fait un travail très intéressant et remarquable. Donc c'est un très beau outil qu'on réutilise aussi, parce que ça parle énormément aux personnes, c'est facile d'accès. Ça leur montre quand témoin direct, par exemple, distraire, on va demander l'heure. Excusez-moi, vous avez l'heure, ou j'ai perdu mon chemin, ou tel collègue, viens, on va boire un café, tiens, c'est le moment de la pause cigarette. Ça permet d'extraire la personne qui serait mal à l'aise ou qui subirait des remarques, une porte de sortie. Et dans le... distraire, souvent, j'explique bien aux gens en disant c'est une des méthodes les plus accessibles à tout le monde et dites-vous que si la personne, elle n'était pas mal à l'aise, elle n'était pas en danger, même si vous interrompez une conversation, même si vous lui demandez si ça va, elle ne vous en voudra pas. N'hésitez pas à faire ça, vraiment, une personne ne vous reprochera jamais de prendre soin d'elle, entre guillemets, ou d'essayer de la soutenir.
Donc, merci, c'est vrai.
Important.
Oui.
Souvent, on a un petit peu cette honte de dire mince, est-ce que j'interprète bien la situation ou pas ? Est-ce que j'y vais ?
Alors, là, il n'y a pas de risque à proposer un café ou un petit temps de pause au travail, en fait.
C'est ça. Et si la personne a été tout à fait à l'aise, elle va dire non, merci, je finis ma conversation.
Au moins, le témoin se sent rassuré et peut continuer. Il aura mené son rôle à ce niveau-là.
Exactement.
C'est ça ?
Oui. Et après, dans cette méthode-là aussi, je vais mettre juste un petit bémol sur le diriger aussi. Okay. Donc, diriger, c'est le fait de dire directement à l'auteur ce que tu fais, ça ne se fait pas, ou laisse-la tranquille, tu vois bien qu'elle est mal à l'aise. Ça, je ne conseille pas forcément en entreprise, notamment si c'est le fait d'un supérieur hiérarchique, parce que vraiment, dans le rôle de témoin, l'idée, c'est ne pas... On n'est pas là pour sauver les personnes. On n'est pas des super-héros, super-héroïnes avec nos baguettes magiques et on va faire disparaître les violences sexistes et sexuelles. Donc non, si un supérieur hiérarchique harcèle une collègue face à vous, le diriger, je mets vraiment, vraiment des grosses barrières parce que l'idée, c'est pas que la personne devienne elle-même victime du harcèlement de l'employeur derrière. Être témoin, c'est important, mais c'est pas à ses risques et périls. On peut faire différentes choses comme les 5D le montrent. Donc voilà, le diriger, c'est vraiment important de ne pas se mettre en insécurité, surtout vis-à-vis d'un employeur ou d'un supérieur ou même d'un collègue qui pourrait rendre aussi la vie au travail violente à nouveau s'il décidait de se venger par rapport à une intervention en tant que témoin direct.
Ok.
Comment ces témoins peuvent intervenir? Alors, ils peuvent déjà faire remonter les faits au niveau de l'entreprise, un supérieur hiérarchique, au RH, au médecin, qui, donc, à ce moment-là, active l'obligation pour le supérieur, pour l'employeur, d'enquête. Et donc, l'enquête de l'employeur, concrètement, c'est en effet aller interroger les différentes personnes de l'entreprise, les différents services, pour savoir si les faits ont déjà été constatés, si... Ça se sait, entre guillemets, entre des rumeurs d'entreprise. Voilà, on sait que telle personne, attention, reste pas toute seule avec lui. Ça, il va faire cette enquête-là. Donc, les témoins, à ce moment-là, interviennent. On peut avoir aussi l'enquête au niveau pénal, où les policiers ou gendarmes peuvent demander aux collègues de venir témoigner pour aussi constater ce qu'ils ont pu voir ou entendre dans l'entreprise. Le témoin, il peut signaler à sa hiérarchie qu'il a l'obligation d'agir à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment l'ensemble des témoins qui vont permettre de montrer la véracité des faits. Et il y a aussi des personnes qui sont très intéressantes. Si jamais, en fait, l'employeur il refusait d'agir, il y a ce qu'on appelle les délégués des défenseurs des droits. Donc, ils se trouvent un petit peu partout en France. Il y a un site internet qui est très bien fait pour trouver le plus proche de chez soi. Donc, les délégués des défenseurs des droits, ce sont des personnes neutres, indépendantes, qui ont la possibilité d'enquêter au sein des entreprises pour savoir si, en effet, il y a des faits de violence sexiste et sexuelle. Et les employeurs ne peuvent pas, en fait, faire barrière à ces enquêtes-là.
D'accord. Suscité par le témoin, en fait.
C'est ça, par le témoin.
Sollicité par le témoin,
c'est
pardon.
Ça, par ce témoin ou la victime directe.
D'accord.
Un témoin, est-ce qu'il a l'obligation de dénoncer ou pas des faits dont il a connaissance? C'est oui et non. On va avoir la question non, parce que ça soit devant... la police ou même devant le délégué du défenseur des droits ou même devant un employeur, il n'y a pas d'obligation de dénoncer quoi que ce soit. Par contre, le faux témoignage est sanctionnable par une amende et de la prison. Donc ça, c'est interdit de faire des faux témoignages. Il est possible de ne rien dire, mais on ne ment pas. Et de la même manière, devant la police, on n'est pas obligé d'aller à une convocation, même si notre nom a été cité comme témoin. Par contre, ce qui est
obligatoire... Qu'on soit témoin direct ou indirect.
C'est ça.
Ok.
Les témoins n'ont pas d'obligation en tant que telle légale, sauf pour les fonctionnaires qui, eux, donc, sont représentants de l'État. Et il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui les oblige, en fait, s'ils ont connaissance de crimes ou délits, donc harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol... d'en signaler le plus rapidement possible au procureur de la République. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet en fait de mettre cette obligation sur les fonctionnaires ou les agents de droit public, même pour le coup là, si la victime ne souhaite pas, elle, entamer des démarches. Mais ça permet en fait une protection aussi en disant, imaginons je reçois la parole d'une de mes collègues qui me dit que elle a des réflexions... déplacés ou de sexistes d'un supérieur hiérarchique. Aujourd'hui, elle ne veut pas agir parce qu'elle a peur, elle se dit que peut-être ça va passer. l'effet continue. Je suis de plus en plus inquiète parce que je me dis qu'il y a une escalade de la violence, qu'on passe du coup plus dans l'agissement sexiste mais dans le harcèlement sexuel. Et par rapport au fait, par exemple, qu'elle peut me décrire, je me dis, ben mince, peut-être que la prochaine fois, ça sera l'agression sexuelle et le viol. Donc même si elle n'était pas d'accord, en fait, elle, pour porter plainte et entamer aucune démarche, du fait de cet article et en tant que fonctionnaire, je pourrais dénoncer les faits sans son accord aussi pour être sûre, en fait, qu'il n'y ait pas cette escalade de la violence.
D'accord.
Parce qu'à l'inverse, du coup, elle, elle pourrait reprocher aussi de ne pas avoir dénoncé les faits du fait de cet article-là.
D'accord.
Pour les salariés de droit public et pas pour les salariés de droit privé.
Ok. J'ai l'impression que c'est le parcours du combattant de mener de telles démarches lorsqu'on est... là, je me place plutôt du côté de la victime. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux en dire quelques mots ?
C'est vrai qu'on a beaucoup cette idée reçue et on entend, c'est en effet ce parcours du combattant pour faire reconnaître les faits. Et là, il y a deux choses qui vont s'opposer. On va avoir vraiment les actes que la personne elle peut faire, donc aller déposer plainte. Donc le fait de déposer plainte, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intense parce qu'on va demander de revivre les faits, de décrire le plus précisément possible ce qui s'est passé avec le stress, l'angoisse qui peut revenir. Pour un dépôt de plainte, pour des faits de violence sexiste et sexuelle, nous, souvent, on informe les personnes que ça peut durer entre 3 et 5 heures, un dépôt de plainte. Donc, ce qui n'est pas non plus un exercice, entre guillemets, facile.
C'est énergivore, et alors d'autant plus quand, du coup, cette personne-là est aussi victime de burn-out.
Oui.
Du coup, c'est vrai qu'il y a une fragilité... voilà, ça demande une certaine énergie. Donc, oui, effectivement, il faut en avoir conscience...
Et c'est pour ça qu'il y a aussi les délais de prescription qui permettent aux personnes de ne pas aller porter plainte tout de suite. Pour les délits, on va être sur 6 ans. Pour les crimes, on va être... il y a différents, mais on va dire 20 ans en moyenne. Et pour une fois qu'en fait la personne elle a porté plainte, concrètement pour elle, il ne se passe plus grand-chose. Alors à Bordeaux, en Gironde, on a la spécificité d'avoir ce qu'on appelle le COVA. Donc suite à un dépôt de plainte, la personne elle va rencontrer un médecin légiste et un psychologue pour évaluer l'impact des violences sur elle. Une fois que ça s'est fait, concrètement, en fait, c'est la police qui derrière fait son enquête, interroge les témoins, dont l'importance des témoins qui vont appuyer en fait, les propos de la personne. Ils vont éventuellement faire une enquête, rechercher d'autres témoignages, voir s'il y a eu d'autres victimes. Mais la personne victime elle-même, en fait, ça va être l'attente. Elle va devoir attendre jusqu'à ce que tout le monde soit entendu. Et à la fin, souvent, ça va être l'auteur qui va être entendu en dernier. Et donc, pareil, la victime ne sera pas forcément informée de quand l'auteur sera entendu, quand il va être convoqué. Et derrière, il y a plusieurs possibilités. Mais entre le moment où elle a déposé plainte et le moment où on va avoir une suite à l'enquête, on peut être sur 6 mois. Non, c'est pas rare, c'est très long. Donc souvent, c'est ça qui est aussi compliqué, le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles ou d'informations pendant ce laps de temps. Et au final, ça va être un petit peu la même chose au niveau, disciplinaire, sanction. C'est-à-dire que la personne, elle peut en premier temps agir au niveau de l'entreprise. Il va y avoir cette enquête, donc elle va attendre. En effet, là, imaginons que ce soit au sein de l'employeur qui fait son enquête, que les délégués des défenseurs des droits aient fait leur enquête, mais qu'il n'y ait pas suffisamment d'éléments pour sanctionner. Là, la victime va pouvoir, en fait, à ce moment-là, agir devant le conseil des prud'hommes ou le tribunal administratif pour faire reconnaître les faits avec des juges, donc avec des personnes extérieures à l'entreprise. Donc là, elle pourra faire un deuxième acte. Mais de la même manière, une fois en fait, qu'elle a saisi le tribunal avec les différents éléments, à ce moment-là, ça va être en fait, éventuellement des témoignages. Donc les témoins qui vont lui transmettre, le rapport du délégué des défenseurs des droits qu'elle a pu lui transmettre. Il y a l'audience qui va avoir lieu, mais l'audience n'aura pas lieu avant 6 mois, 2 ans.
D'accord.
Donc là aussi, c'est encore beaucoup d'attente.
D'accord, donc c'est cette attente qui peut être un peu difficile à gérer, même parfois très difficile à gérer. en attendant, en fait, ces victimes, qu'est-ce qu'elles deviennent, entre guillemets, elles restent au sein de l'entreprise, comment ça se passe?
Ça, malheureusement, c'est très personnel aussi. Mmh. Certaines peuvent, de par leurs ressources et leur histoire de vie, réussir à rester au sein de l'entreprise, ou parfois c'est par, malheureusement par des obligations et des freins très pratico-pratiques, le salaire. Il n'est pas dans la possibilité de se mettre en arrêt maladie ou de changer d'emploi parce qu'il faut bien vivre. Donc parfois les obligations obligent les personnes à rester au sein de leur service, à côtoyer les auteurs, à parfois continuer de subir les mêmes faits jusqu'à l'audience. Et parfois, peut y avoir en effet soit des sanctions des auteurs, soit aussi des employeurs ou des RH qui mettent en place, en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui vont déplacer la victime vers un autre service, vont faire des adaptations de poste avec télétravail. Mais c'est vrai que malheureusement, souvent, on constate que ça va être la victime, lors de ce délai, qui va devoir subir les conséquences, en fait, directes du harcèlement, en plus des effets psychosociaux. Mais la sanction, déplacé de service, arrêt maladie, perte de ressources, les obligations de démissionner parfois pour se protéger aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui est aussi important pour rassurer les personnes, c'est de se dire qu'en cas de harcèlement ou de fait d'un part d'un employeur, devant le conseil des prud'hommes, c'est à l'employeur de prouver que ces faits n'ont pas eu lieu. Donc ça aussi, ça peut aussi rassurer les personnes. Si des faits sont dénoncés, bah comme le salarié est en position, comment dire, plus...
vulnérable.
Exactement, merci. Plus vulnérable que l'employeur. L'employeur pourrait retenir des documents, par exemple, qui prouveraient le harcèlement. Donc c'est pour ça, en fait, que le salarié va dire, ben bah, voilà, il y a eu ça, ça, ça. Et c'est à l'employeur de montrer que bah, ça, 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 ça ne constituait pas des faits de harcèlement.
D'accord.
C'est ça, pour résumer en gros, au niveau du droit pénal, la personne, elle va porter plainte avec les preuves qu'elle veut, qui sont toutes preuves irrecevables, comme je disais, même des preuves obtenues illégalement. Et une fois que le dépôt de plainte est fait, on attend. Et ensuite, au niveau de l'entreprise, on va avoir la dénonciation des faits, soit enquête qui aboutit avec une sanction disciplinaire, soit les tribunaux. Et devant les tribunaux, cette fois-ci, ça va être à l'employeur d'amener les preuves.
D'accord, merci. On a parlé de plusieurs acteurs qui permettent d'accompagner la victime ou les témoins pour dénoncer les faits. Et les avocats, en fait, à quel moment ils interviennent?
Alors, les avocats, ils vont intervenir assez loin dans la procédure. Par exemple, au moment du dépôt de plainte, il n'y a pas nécessité d'avoir un avocat. L'avocat serait nécessaire s'il y a ce qu'on appelle un classement sans suite. Souvent, les classements sans suite, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Et ce qui est important aussi là, de comprendre, c'est qu'en droit pénal, ce qu'on va appeler le principe de la présomption d'innocence, ce n'est pas que la personne elle est innocente. Souvent, quand il y a des classements sans suite, les personnes vont dire « c'est bon, je suis innocent ». Non. C'est qu'on dit que tant qu'on n'est pas sûr à 100%, on ne va pas pouvoir condamner. Mmh. Donc la personne n'est pas innocente, elle n'est pas coupable. Ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est important de dire que la justice, elle ne nie pas les faits, elle ne nie pas la réalité de ce qui a pu se passer, mais elle peut dire que malheureusement, bah là, à l'heure actuelle, elle n'a pas suffisamment de preuves pour condamner l'auteur. Et à ce moment-là, l'avocat peut intervenir pour justement faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire qu'en fait, on saisit directement le juge de l'instruction, le juge qui fait l'enquête, pour dire ben, y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte, merci de revenir sur l'affaire.
D'accord.
Ou ça peut être au moment, en fait, de si l'auteur est condamné, donc on peut prendre un avocat pour se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts. Après, au niveau du conseil des prud'hommes, ça peut être intéressant au moment de l'audience pour être présenté, ou notamment si émotionnellement ça peut être aussi trop difficile. Parfois ça peut être ça, c'est pas seulement par rapport à des questions de droit pur et dur, ça peut être aussi parce que les personnes elles ont pas l'énergie et elles ont pas la possibilité en fait d'assister aux audiences ou de s'exprimer par elles-mêmes devant un juge alors qu'il y a l'auteur à côté.
Et toi, en tant que juriste, en fait, comment t'interviens ?
Nous, on va intervenir notamment dans les cadres où, par exemple, les employeurs ne font rien. Donc, une personne qui va subir des violences sexistes et sexuelles au travail, qui n'a aucune personne ressource, aucune personne de confiance dans l'entreprise, va venir nous voir. Donc, nous, on va lui expliquer les différentes procédures. Donc, le fait qu'elle peut soit agir au niveau de la plainte, soit voilà, faire l'enquête au sein de son entreprise, bien l'informer de tous ses droits. Éventuellement, si sans la nécessité, on peut mettre en place ce qu'on appelle un accompagnement, c'est-à-dire que nous, on fait de l'information juridique, contrairement aux avocats qui font du conseil. Donc, cette information juridique, elle permet d'accompagner les personnes parmi les différentes démarches, parce qu'en effet, quand on subit des violences sexistes et sexuelles, comme on l'a dit tout à l'heure, engranger beaucoup d'informations, ça peut être compliqué. Donc le fait voilà, de se voir aussi régulièrement, ça permet aux personnes de retenir au fur et à mesure les différentes informations, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est vrai que parfois le droit, ça peut être un peu compliqué. Donc cet accompagnement voilà, permet aussi aux personnes voilà, de faire le point juridiquement où elles en sont dans ces démarches-là. Et aussi de leur montrer que ben, malgré le fait qu'elles aient, par exemple, pas de soutien au sein de leurs entreprises, elles ne sont pas toutes seules, elles ne sont pas isolées, qu'il y a des personnes qui les croient, qui peuvent voilà, les informer et les soutenir. Et derrière, qui peuvent aussi notamment leur expliquer que leur médecin généraliste peut faire un signalement aussi, en plus, par exemple, de la médecine du travail, des délégués, des défenseurs des droits. Donc vraiment leur ouvrir aussi... Ces opportunités d'une certaine manière à l'ensemble des acteurs qu'elles pourraient ne pas avoir connaissance au sein de l'entreprise.
D'accord, un rôle majeur et hyper important. Quand on ne creuse pas la question, quand on n'est pas concerné ou pas témoin, etc., on n'a pas connaissance de tout ça en fait. Hein. Est-ce que tu as un conseil, un super conseil ou ton meilleur conseil d'experte à donner à une burnette qui serait victime de telle violence ?
De parler. Parce qu'en réalité, alors, c'est assez commun qu'on constate que pour un auteur, il y a plusieurs victimes et que souvent, on a l'impression d'être isolé, d'être la seule personne à vivre ce qu'on vit. Et dès qu'on discute et qu'on parle avec d'autres collègues, on constate qu'on n'est pas toute seule. Et c'est aussi ça qui est important, de voilà, oser se libérer de ce poids-là, parce que ça permet déjà d'obtenir souvent plus de soutien que ce qu'on pourrait croire, de ne pas rester isolé et de pouvoir aussi entamer des démarches collectivement et plus, de manière plus sécure.
D'accord, merci. Merci beaucoup Ségolène.
Merci à toi.
Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out, c'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elle Burn, connaître la communauté des burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt !